Activez vos synapses. Poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.
Les troubles des conduites alimentaires sont en explosion. La pandémie de Covid-19 a accéléré et révélé une autre pandémie, celle liée à l'alimentation. Très divers, ces troubles vont de la restriction la plus totale à l'excès quasi addictif de consommation de nourriture, associé ou non à des comportements purgatifs. Aujourd'hui, au Labo des Savoirs, on va essayer de comprendre ce que sont les troubles du comportement alimentaire. Qu'est-ce qu'on regroupe derrière ce nom? Quels sont les symptômes cliniques associés? Comment s'effectue l'accompagnement des patients? Et enfin, quelles sont les causes et mécanismes que la recherche a permis d'éclairer pour essayer de comprendre l'origine des troubles des conduites alimentaires? C'est ce dont nous allons parler au Labo des Savoirs pendant cette heure. Et je suis avec Bruno Rocher, médecin psychiatre addictologue à l'espace Barbara, hôpital de jour du centre de soins ambulatoires en addictologie au CHU de Nantes et directeur du service Abella anorexie boulimie en Loire-Atlantique.
Bonjour.
Et également, nous sommes par téléphone avec Marie-Gaëlle Mich, docteur spécialisée en épidémiologie, des troubles du comportement alimentaire et ingénieur de recherche au CHU de Rouen. Bonjour.
Bonjour.
Eh bien, merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Nous aurons également une chronique de Lila sur l'influence des réseaux sociaux sur le développement des troubles du comportement alimentaire. Alors, avant de commencer cette émission et de rentrer un peu plus en profondeur dans ce que sont les troubles des conduites alimentaires ou TCA, je vous propose d'écouter cet archive de l'émission Zone Interdite en 1996.
Je me vois telle que je suis pendant quelques secondes et puis après, l'image se déforme. Je prends 10 kilos dans la glace en me regardant.
Estelle a 24 ans. Elle est anorexique. Pour elle, tout a débuté il y a 7 ans. Pour perdre quelques kilos avant l'été, Estelle commence ce qu'elle croit être un simple régime. En fait, c'est l'anorexie qui s'installe.
Il me fallait 2-3 jours pour m'habituer à ces 2-3 kilos perdus. Donc pendant ces 2-3 jours, je me trouvais mince. Pas maigre, jamais. Mince, et puis au bout de 2-3 jours, je recommençais à avoir un bourrelet, un truc qui n'allait pas, les cuisses qui étaient trop grosses, un gras sous le menton, enfin bon, je trouvais toujours quelque chose qui me réengageait à remaigrir à nouveau pour être sûre, pour rechercher cette sensation de légèreté.
Bruno Rocher, comme on l'entend, pendant les troubles du comportement alimentaire, alors on parle de différents troubles derrière. À l'intérieur, on a l'anorexie mentale, la boulimie, l'hyperphagie boulimique. Est-ce que vous pouvez commencer par éclaircir un petit peu ces termes-là?
Oui, tout à fait. Je pense que c'est extrêmement important que l'on puisse détailler un petit peu de quoi on parle et quels sont les symptômes alimentaires qui révèlent du champ du soin, du champ de la médecine, de la psychiatrie, de la psychologie et de l'accompagnement. Effectivement, les troubles sont catégorisés dans ce qu'on appelle des catégories nosographiques qui permettent de se représenter quels sont les différents troubles qui justifient une organisation de soins. Et dans la dernière version que l'on nomme DSM-5, il y en a plusieurs, des versions bien sûr, mais celle qui est internationalement admise et regroupée sous ce nom-là, on a trois grandes catégories cliniques que l'on retrouve plus fréquemment effectivement dans les espaces de soins plus adultes que je représente, que sont l'anorexie mentale, la boulimie nerveuse comme vous le disiez, et l'hyperphagie boulimique. Si on les détaille un peu plus précisément, l'anorexie mentale est une pathologie qui va être une pathologie essentiellement de restriction dans un premier temps, de limitation d'apport alimentaire pour amener à une perte de poids, comme on l'entend dans le témoignage que vous donniez auparavant, car le poids est d'une image extrêmement insatisfaisante pour le patient, et ça va être finalement extrêmement angoissant d'être à des poids qui sont vécus comme normaux, avec un trouble de la déformation de l'image du corps, comme vous le citiez, et avec une nécessité pour le patient de continuer une perte de poids qui devient totalement déraisonnable. On pourrait regrouper un petit peu les symptômes de cet endroit-là. Et s'ajoute à ces éléments-là différentes comorbidités, puis différents autres symptômes que l'on cite pas ou qui n'ont pas été dits dans le témoignage, qui sont du côté de l'hyperactivité physique notamment, qui va contribuer à la fois à une impression de maîtrise corporelle et surtout à majorer encore la dépense calorique. Pour ce qui est des troubles boulimiques et hyperphagie boulimique, le trouble boulimique se caractérise par l'ingestion massive de quantités alimentaires qui sont souvent d'ailleurs refusées à d'autres moments de la journée, qui sont des alimentations spécifiques, ça dépend de si ça se conjugue ou pas à des troubles anorexiques, mais qui vont être des quantités qui vont être cachées aux yeux des autres, d'une certaine manière aussi dissimulées à la conscience du patient qui sait qu'il ne peut pas l'exprimer dans tout le temps de sa vie, qui va regrouper ces moments-là un petit peu cachés souvent dans la soirée, dans des moments où il n'est pas à la vue des autres, et avec des conduites d'annulation qui vont limiter ces quantités alimentaires massives, qui vont se faire le plus souvent par un vomissement, mais là aussi il y a d'autres techniques de purge qui peuvent être occasionnées. Et puis pour ce qui est de l'hyperphagie boulimique, on est finalement sur des crises de boulimie, c'est-à-dire des ingestions massives alimentaires d'aliments qui sont souvent restreints dans d'autres moments de la journée, mais qui ne vont pas avoir cette possibilité de compensation. Et alors que la boulimie peut tout à fait passer à l'insu de la vue de la famille, de la vue du médecin, parce que le poids est normal et reste le plus souvent normal, il va falloir traquer des signes pour qu'on ait une visibilité de ce trouble-là, ou que le patient soit en capacité de le signaler. Dans l'hyperphagie boulimique, on a une accumulation de calories, du coup une prise de poids qui se fait pour les patients.
Très bien. Et Marie-Galmiche, peut-être en complément, s'il y a des choses à rajouter sur ces définitions de ces troubles.
Non, effectivement, bon, on se base sur le DSM-5, donc c'est la définition parfaite de ces troubles-là. Mais parfois, effectivement, on peut compléter aussi avec des symptômes d'addiction à l'alimentation, souvent associés à l'hyperphagie boulimique. Et on a aussi parfois de l'alimentation émotionnelle, qui va être plutôt la tendance à modifier sa consommation alimentaire en fonction des émotions, que ce soit positive ou négative.
Et oui, bah oui, parce que vous, Bruno Rocher, vous êtes psychiatre et addictologue aussi. Donc, est-ce que vous observez donc certains mécanismes psychologiques des TCA qui sont, que ce soit dans l'anorexie mentale ou l'hyperphagie boulimique, qui sont similaires au processus justement d'addiction?
Alors oui, les processus addictifs pour nous, mais effectivement c'est une compréhension, une organisation de notre compréhension de la situation, une organisation de la psychopathologie et de la structuration du mal-être qui va s'exprimer par ces troubles-là, qui s'est modélisé sous l'impulsion de Jean-Luc Vénis il y a 35 ans désormais, au début des années 90, sous un modèle addictif, avec l'idée que le fait d'avoir recours à un comportement de consommation alimentaire, comme le rappelait Marie aussi juste avant, un recours à une substance psychoactive, va avoir finalement des capacités d'apaisement, on va dire d'auto-apaisement, parce qu'il est extrêmement facile d'avoir accès à de la nourriture, en tout cas dans nos sociétés, et qui va influencer sur le process psychique du patient, notamment le process émotionnel qui a été cité, ce que disait la jeune femme aussi dans le témoignage, et qui va avoir capacité à générer un auto-apaisement, sauf que c'est un auto-apaisement qui, comme l'image du corps insatisfaisante, reste partiel et reste à creuser toujours plus bas, et finalement de plus en plus de recours à ces situations-là, et une accumulation de conséquences négatives ou d'effets secondaires.
Et parmi les TCA, on entend parfois parler d'orthorexie aussi, qui a été définie en 97 par le médecin Steve Bratman, que j'ai lu qui peut se définir comme le désir de se nourrir d'aliments dits sains et d'éliminer tous les apports journaliers qui sont considérés comme malsains. Donc, est-ce que aujourd'hui c'est une TCA à part entière reconnue?
Alors, l'orthorexie n'est pas reconnue comme un TCA à part entière. C'est un petit peu comme les questions que ramenait Marie, effectivement, qui sont des tableaux diagnostiques que l'on connaît, hein, clairement, que l'on repère, qui ont une certaine entité, mais qui ne sont pas rentrés dans les classifications, ou qui ne sont pas au même niveau, on va dire, de compréhension dans les classifications. Et l'orthorexie, finalement, on va dire que c'est presque une anorexie, on pourrait dire ça, sauf qu'il n'y a pas toute cette attache à la perte de poids, cette attache à une image corporelle qui est problématique, et il va y avoir une focalisation des pensées du patient et d'une grande inquiétude dès qu'il sort des clous qu'il s'est autorisé par le biais de son orthorexie et des limitations des champs d'aliments qu'il est capable de manger. Mais la question corporelle, globalement, n'est pas problématique pour ces patients-là. Et d'une certaine manière, ça pourrait se rapprocher un peu au tableau de l'ARFID, qui est un trouble là qui, lui, est dans la catégorie des troubles des conduites alimentaires, reconnu dans le DSM, et qui a fait sa place. Et ARFID, c'est Avoidant Restrictive In-Food Take Disorder, c'est-à-dire c'est l'incapacité et la nécessité de limiter ses apports alimentaires sur telle et telle catégorie d'aliments, c'est-à-dire que ça va être une sélectivité extrême qui va se cantonner à quelques types d'aliments. Et dans les différents différence qu'il y a principale avec l'anorexie mentale, c'est qu'effectivement, alors que l'anorexie touche essentiellement les jeunes femmes à un ratio de 1 pour 10, enfin un homme pour 10 patients, pour 10 femmes, on est dans la RFID à quelque chose qui touche plus les garçons, en moyenne, un petit peu plus les garçons que les femmes, et surtout qui apparaît beaucoup plus tôt dans l'évolution de la vie des patients, alors que l'anorexie apparaît plutôt dans l'adolescence, la RFID commence dans l'enfance.
Ok. Justement, je rebondis, vous parliez de la disparité entre les sexes. Donc si j'ai bien compris, c'est tout TCA confondu, on est à un ratio de 1 sur 10. Donc un homme pour 10 femmes touchées.
Surtout dans l'anorexie mentale. C'est beaucoup plus tempéré sur la boulimie et l'hyperphagie boulimique.
D'accord. Et est-ce qu'on a des explications à cette disparité
Les explications, elles sont multiples et par définition peu prouvées d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'on peut poser tout un tas de compréhensions et de théorisations qui sont possibles, qui vont toujours se combiner. De même que se combinent en fait les compréhensions de la physiopathologie, de la psychopathologie, de l'organisation des troubles. On va jamais dire c'est parce qu'il y avait un régime d'été, comme c'était signalé là, que le trouble s'est constitué. Ça a peut-être été la petite touche qui fait décompenser la situation, mais ce n'est jamais en soi l'explication unique. Donc pour les questions de répartition de sexe ratio, finalement, définition de la compréhension de ces troubles alimentaires, on est dans des hypothèses qui sont multiples, qui vont sûrement tenir à des éléments de physiopathologie sur lesquels Marie, et d'hormonologie potentiellement, sur lesquels Marie va pouvoir largement contribuer à donner des explications, mais on sait qu'il y a des contributions sociologiques, qu'il y a des aspects de psychologie, la question de la puberté, de l'image du corps féminin, de la sexualisation des images, et on va revenir peut-être que le patch sur les réseaux sociaux parle un petit peu de cette question-là, on peut imaginer. Tout ça, c'est des combinaisons qui sont présentes, les traumatismes sexuels, tous les abus, tous les regards, on va dire, déplacés ou des attouchements, malheureusement du quotidien, sont malheureusement là aussi très genrés dans leur fonctionnement, et le fait que les femmes en soient plus souvent victimes en fait potentiellement des victimes plus importantes aussi de ce nécessité de régulation émotionnelle qu'elles vont trouver dans les troubles alimentaires.
Marie Galmiche, peut-être d'un point de vue plus physiologique et hormonal sur cette différence entre les sexes.
Oui, effectivement, comme le disait Monsieur Rocher, effectivement, il y a quelques suggestions au niveau physiopathologie, bien qu'il n'y ait aucun mécanisme qui soit réellement défini. Mais au niveau des différentes suggestions, il y a notamment quelques publications qui évoquent la possibilité que le sexe féminin soit impacté directement par l'anxiété, soit plus sujet à l'anxiété, sachant qu'on sait que l'anxiété est notamment un facteur déclencheur, peut être un des facteurs déclencheurs des TCA. Et également, récemment, l'unité INSERM 1073 a fait une publication sur l'impact des gènes rythmant le rythme circadien. Mmh. Et en fait, les femmes seraient plus sujettes à une modification génétique de ce rythme circadien, en fait, que les hommes, ce qui pourrait également induire cette augmentation de la prévalence des TCA chez les femmes. Mais ça reste que des hypothèses pour le moment, et il n'y a absolument rien qui est défini, puisque comme on le sait, de toutes les manières, les TCA, c'est multifactoriel, oui. C'est des pathologies qui sont multifactorielles, et donc forcément, ça va être une accumulation de différents facteurs, notamment aussi l'implication parfois de certaines infections. Donc, il n'y a pas un mécanisme physiopathologique qui expliquerait cette différence au niveau de la prévalence homme-femme.
D'accord. Et alors, on l'a dit en introduction de cette émission, la pandémie de Covid-19 a énormément accéléré le nombre de demandes de prise en charge de TCA. Peut-être pas Marie Galmiche, vous m'avez partagé une publication qui montrait que notamment c'était chez les étudiants qu'il y avait eu une énorme explosion, peut-être commenter ces chiffres.
Effectivement, il y a beaucoup de publications, de plus en plus de publications qui ont mis en évidence une augmentation de la prévalence des TCA à la suite de la pandémie, ce qui s'expliquerait notamment par le contexte anxiogène. Comme je le disais, l'anxiété fait partie des facteurs déclencheurs, donc forcément, on sait que cette période a été particulièrement anxiogène, et notamment pour les étudiants. Et effectivement, la dernière publication qui est effectuée au niveau de l'Université de Rouen, montre qu'on atteint des prévalences allant jusqu'à 30% chez les hommes et 50% chez la population étudiante. Voilà, en prenant des catégories, bien sûr, des catégories larges. Mmh. Donc, on parle bien sûr d'anorexie mentale, de boulimie et d'hyperphagie boulimique, mais avec des catégories larges, c'est-à-dire des symptômes plus atypiques et plus larges, pas forcément des catégories et une sévérité très importante.
D'accord. Et Bruno Rocher, vous, est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu observer ici au CHU de Nantes?
Oui, tout à fait. Je pense qu'on l'a observé par un autre moyen ou un autre biais que Marie. C'est-à-dire que nous, on l'a surtout constaté dans l'allongement de nos délais de consultation de première fois, des délais de consultation interfois ou interconsultation, ce qui veut dire que la file active est plus importante, où là, on se retrouve effectivement dans des difficultés qui sont larges. Et puis, on a différents indicateurs, alors chiffrés, mais que je peux pas vous reciter là directement. Mais d'autres indicateurs où, par exemple, quand on commence les soins dans notre service, on a un groupe d'accueil qui permet d'accueillir les patients ou les familles qui, globalement, en moyenne, à vue de nez comme ça, mais je pense qu'on est proche de la réalité, était en moyenne à 5-6 participants. Sur les années Covid, on a pu monter jusqu'à 20 participants, et du coup, avec une espèce de vague, comme le dit d'une certaine manière autrement Marie, de sollicitations par rapport à ces troubles alimentaires débutants, qui ne sont pas d'ailleurs forcément gravissimes, qu'on vient jusqu'à nous. Globalement, c'est quand même une certaine gravité, mais on avait vraiment des nombres qui étaient largement majorés, et on est encore dans cette crise là on peut espérer qu'il y a une partie des patients qui vont finalement avoir trouvé du soin, avoir trouvé de l'apaisement, et qui vont sortir de la file de soins actifs, mais il y en a d'autres qui sont encore dedans, car on est sur des troubles et des pathologies qui malheureusement évoluent longtemps et mettent du temps à régresser complètement.
D'accord. Et vous avez une explication un peu du pourquoi cette pandémie a accéléré?
Mais le facteur stress, effectivement, est le plus facile à mettre en évidence, parce qu'on était tous, on va dire, stressés, modifiés dans nos comportements, dans les rythmes circadiens, dans les rythmes de vie, moi je retrouve beaucoup aussi dans les rythmes sociaux, c'est-à-dire que d'habitude, on va se réguler d'une certaine manière parce qu'on va au boulot, parce qu'on va au lycée, parce qu'on va au collège, parce qu'on a une activité sportive, etc. On rencontre du monde, ça permet de diluer une partie des stress, des tensions, de faire du lien social. Et finalement, dans cette phase de claustration au domicile, non seulement on avait beaucoup moins de liens sociaux, on avait cette disparition de la régulation, et puis il ne faut pas oublier qu'on est sur une phase d'adolescence, c'est-à-dire que c'est aussi une phase qui est marquée par l'opposition de l'ado avec son parent, quelle qu'en soit la nature, même quand ça se passe bien, et de passer 1, 2, 3 mois les uns sur les autres au sein de domiciles et parfois des domiciles qui sont exigus, hein, quand on est sur des appartements, des choses comme ça, de montrer son alimentation, de plus montrer son corps d'une certaine manière à l'autre, sont des sources de tension qui clairement ont fait du mal et qui ont été citées très spontanément par l'ensemble des patients en consultation, en tout cas une grande majorité des patients en consultation à ce moment-là.
Eh bien, marquons désormais une courte pause dans notre émission et écoutons Vorso avec Facettes.
La recherche et ses chercheurs au Labo des Savoirs.
C'était Facettes de Vorceau. Nous sommes de retour en plateau avec Bruno Rocher et Marie Galmiche. Alors, pour continuer à parler des troubles des conduites alimentaires et plus de l'accompagnement des patients vers les soins, vous, Bruno Rocher, vous dirigez donc le réseau Abella Anorexie Boulimie en Loire-Atlantique. Comment fonctionne ce service et quelle est la prise en charge des patients et patientes qui peuvent s'adresser à vous ou d'autres membres du service?
Alors, je vais me permettre de corriger. En fait, c'est pas vraiment une direction, c'est une présidence. Abella est une association de professionnels qui sont dans le champ des troubles des conduites alimentaires et qui essaient de s'organiser leur partenariat pour apporter le meilleur soin possible sur le territoire de la Loire-Atlantique, parce que Abella veut dire anorexie boulimie en Loire-Atlantique, et du coup d'organiser les soins entre la ville et l'hôpital, comme on dit souvent. Du coup, pour faire très simple, sur l'hôpital, on a un service du coup d'addictologie que je dirige, dont je dirige l'espace Barbara, qui est le centre de soins ambulatoires en addictologie, qui est situé juste à côté d'ici, qui prend des patients à la fois en consultation et en journée. Mais il y a d'autres structures dans le service d'addictologie. Il y a l'unité Louis-Andréa Salomé, qui est une unité d'hospitalisation, qui propose à la fois des bilans courts d'une semaine pour faire le point sur la conduite du patient, et des hospitalisations à volontiers curative plus importante, où on peut passer un ou deux mois à l'hôpital sur ces temps-là, et avec un travail corporel, alimentaire, relationnel, psychique sur les conduites familiales, sur les troubles des patients. Après, dans ce lieu hospitalier, il y a tous les services de pédiatrie et de pédopsychiatrie, bien évidemment, qui sont concernés par les troubles des conduites alimentaires, d'autant plus qu'on a des arrivées en soins de plus en plus jeunes, avec assez régulièrement désormais des patients de moins de 10 ans, ce qui n'arrivait pas avant. On était plutôt avec des bas seuils de prise en charge qui étaient à 12-13 ans pour les situations basses, et là on arrive des fois à moins de 10 ans, et puis donc ils font un travail extrêmement important parce qu'ils sont très sollicités, et puis on a un service d'endocrinologie avec qui on a un partenariat fort pour gérer les troubles des conduites alimentaires version troubles somatiques et avec des difficultés physiques, hydroélectrolytiques, des conséquences de sous-poids tout bêtement, hein, parce que les patients sont souvent hospitalisés là-bas pour ça, et puis un partenariat avec le service de gastro-entérologie en version soins intensifs dans les situations qui sont les plus sévères. Et en fait, l'ensemble de ces structures-là s'associent pour proposer un parcours de soins qui peut aller du pas très grave ou du très jeune à au plus âgé, etc. Et de répondre à ces différentes facettes-là. Et la structuration du réseau Abella permet de faire le lien aussi avec la ville. La ville, ça va être les médecins généralistes, mais qui sont impliqués ponctuellement, on va dire, sur des troubles alimentaires quand ça arrive. Ils peuvent pas tous connaître bien précisément et s'impliquer dans ce genre de structure-là parce qu'ils ont malheureusement beaucoup, beaucoup de travail et d'autres choses à faire. Mais des nutritionnistes et diététiciennes, il y en a beaucoup qui s'accrochent à ce genre de réseau parce que c'est extrêmement important pour eux. Il y a certains psychologues ou psychiatres qui ont envie de se rapprocher de cette thématique parce qu'ils ont des appointances ou des intérêts spécifiques pour cela. Des psychomotriciens, des neuropsychologues, etc., etc. Et tout un tas de professions qui ont intérêt à se regrouper dans cette action partenariale, pluriprofessionnelle, pour apporter de meilleurs soins aux patients.
Oui, c'est important de fonctionner en réseau et puis avec des approches pluridisciplinaires comme ça.
Oui, c'est extrêmement important parce que je l'ai pas dit dans la présentation. Souvent, je peux dire ça, c'est que le trouble alimentaire, l'anorexie mentale ou la boulimie nerveuse est une problématique certes psychique, mais avec une expression dans l'assiette, dans le trouble alimentaire et avec des répercussions corporelles. Et du coup, il n'y a aucun médecin qui est spécialiste de l'ensemble de ces trois dimensions-là. Et même s'il l'était, ce serait pas une très bonne chose que ce soit une seule personne qui fasse tout ça. Donc on est dans des partenariats quasi obligatoires qui doivent permettre de mettre en lien des spécialistes du psychisme, des spécialistes de l'assiette et des spécialistes du corps.
Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous pratiquez comme type de soins là-bas avec les patients ? Alors je sais qu'il y a des repas thérapeutiques ou des thérapies comportementales cognitives.
Ouais, alors il y a beaucoup beaucoup de soins qui sont pratiqués. Si on se recentre sur Barbara, donc qui est une des parties de l'espace de soins du service d'addictologie, donc là pour le coup je dirige, on va d'abord avoir des consultations, de bilans et d'évaluations. Il y a même d'ailleurs des moyens qui sont descendus par le niveau national avec une reconnaissance de centre experto troubles alimentaires, et Nantes a été reconnu centre expert de niveau 3 en 2021, ce qui a permis d'avoir quelques moyens de soins et de proposer des évaluations structurées, pluridisciplinaires, de début de parcours où on fait le point au niveau neuropsychologique, au niveau psychomotricien, au niveau diététique et au niveau psychiatrique. Et de cette quadruple évaluation, on essaie de déterminer un niveau d'accompagnement et de soins qui va être possible. Et quand on va par exemple sur l'hôpital de jour, effectivement, quand les patients sont d'accord avec ça, parce qu'on n'est pas sur une pathologie qui se laisse aussi facilement prendre en charge, il y a certaines réticences, certaines méfiances, il y a certaines incapacités à reconnaître la gravité l'intensité du trouble, qui font même partie des critères diagnostiques, on se retrouve dans la nécessité d'abord de mûrir un projet de soins, une représentation de la problématique pour les patientes, puis d'arriver à une organisation de soins qui va être consentie, que nous on contractualise parce qu'on aime bien et on trouve ça particulièrement structurant et rassurant pour les patients d'avoir finalement des dates de prise en charge. On commence en janvier, on finit en avril, là on fera le bilan et on verra si on repart d'avril à juillet, etc. Et on organise un petit peu les choses comme ça. On met des objectifs en place sur ces contrats et donc des médiations, comme vous le citiez, qui vont à la fois viser à gérer des symptômes ou à accompagner les patients sur telle ou telle souffrance d'un point de vue corporel, alimentaire ou psychique. Et par exemple, d'un point de vue alimentaire, les repas thérapeutiques, pour donner le panel de ce qu'on essaie de proposer, c'est de s'adapter justement à l'ensemble du panel des difficultés qui nous sont soumises par les patients. Il faut bien se rendre compte qu'il y a des patients qui arrivent à Barbara qui sont incapables de manger. Ils sont vraiment dans une restriction telle qu'on est sur un symptôme d'aphagie, que l'on dénomme comme ça, qui généralement va partir vers l'hôpital assez rapidement. Des fois, on est sur des choses un petit peu plus partielles ou très très récentes. Et pour des patients qui sont en énorme difficulté alimentaire comme cela, on a un groupe de repas, ou même des fois des repas individuels qui peuvent être proposés pour essayer de débloquer le plus présentement possible, le plus proche de la situation du patient, des repas, pour mettre un petit peu le pied à l'étrier. Et une fois que ça va un peu mieux, effectivement, on peut partir sur des groupes et des repas plus collectifs. Et puis à l'autre bout de la palette, il y a des patients qui vont mieux, qui ont encore quelques limitations plutôt dans les repas à l'extérieur, dans les repas sociaux, et où on les accompagne avec un ou deux infirmiers vers l'extérieur pour aller manger au restaurant. On a pu aller dans une scène de fast-food très connue que je ne citerai pas à l'antenne. On a pu faire différentes choses qui accompagnent vraiment dans la vie la plus courante possible les patients, mais qui sont dans un spectre d'amélioration plutôt positif. Bien évidemment.
Oui, c'est important d'avoir cette dimension sociale et sociétale aussi de la prise alimentaire. Vous développez aussi, je crois, des ateliers d'expression corporelle, verbale, émotionnelle et peut-être aussi des approches en art-thérapie.
Alors, ça tombe très bien parce que pendant que j'enregistre cette émission avec vous, il y a un graffeur nantais très connu qui s'appelle Ador qui réalise avec nous une fresque qu'on appelle participative, dans le sens où on a organisé des temps avec lui en amont pour décider les patientes ont décidé les portraits ou les personnages qu'elles souhaitaient mettre en place et la scénographie du graphe qui est réalisée dans les jardins de Barbara, dans la cour intérieure de Barbara. Avec un graphe qui va se dérouler avec les patientes là, sur l'ensemble de cette semaine de vacances sur laquelle on est, et avec du coup cette finalité que d'amener les patients à participer. De même qu'il y a un blog sur Barbara qui est ouvert, qui est hébergé par le CHU, on va dire sécurisé par le CHU en termes de contenu, de médiation, des commentaires, etc. Et il est très probable que l'émission se retrouve sur le blog à la suite, si on a un partenariat possible.
Oh bah, bien sûr.
Qui permettra de faire part aussi de ce qu'on essaie de mettre en interface entre ce qui se passe à l'intérieur des murs hospitaliers et ce qu'on accompagne vers l'extérieur pour les patients.
Et aujourd'hui, quelles sont les pistes les plus prometteuses et les meilleures que vous observez pour une rémission ?
Je pense que les pistes prometteuses, je pense pas qu'on ait fait énormément de révolutions dans les troubles alimentaires. Je pense que le trouble alimentaire évolue bien si on se donne du temps. C'est-à-dire qu'on sait très bien que c'est des maladies qui évoluent en plusieurs années. Et alors, selon le type et selon la gravité de difficultés, la dimension de latence à l'arrivée en soins, ce qui est une des facteurs pronostiques les plus présents, les plus pertinents. C'est sûr que quelqu'un qui n'a pas eu de soins pendant 10 ans et qui se pointe dans un service de soins fera pas du tout la même chose que quelqu'un qui vient avec un bon repérage, un bon accompagnement familial, un bon repérage par le médecin traitant. Au bout de 3-4 mois, on a une capacité de mise en mouvement du symptôme qui est bien meilleure. Mais ça nécessite toujours du temps, toujours de bien connaître ces troubles-là et de ne pas les traiter de fantaisie en disant que ce n'est qu'un caprice et si tu mangeais, t'as qu'à manger, ça ira bien. Bien évidemment que c'est beaucoup plus douloureux, beaucoup plus compliqué que ça et qu'il faut se donner un temps d'amélioration. Par contre, il y a effectivement quand même quelques nouveautés. La réalité, et ça on le sait depuis tout le jour, c'est qu'il faut travailler dans l'émotionnel, travailler dans le champ psychique de la compréhension, du trauma aussi, travailler dans le champ corporel et d'avoir un accompagnement corporel des patients, puis de travailler sur les questions d'assiette, ce que je vous disais tout à l'heure. Et après, c'est d'avoir une structure suffisamment large des différents moyens de soins que l'on peut proposer. Mais pour revenir au corporel, pendant très longtemps, on a barré l'accès ou la possibilité de faire du sport aux patients, en leur disant t'es trop mec, tu peux pas faire du sport. Et finalement, on se rend bien compte, il y a pas mal d'études qui sont faites à ce propos-là, une dans le service là actuellement qui vient par Laurence Kern à Paris, mais qui permet de mesurer que l'activité physique adaptée a pas est une méthode aussi pour permettre aux patients de mieux comprendre le fonctionnement de leur corps et finalement trouver aussi une motivation et un intérêt à manger pour faire fonctionner ce corps, etc. Et on rentre plutôt par ce biais d'activités physiques dynamiques dans des cercles vertueux d'amélioration que dans des cercles de dégradation et d'empêchement alimentaire. Je me permets de rajouter qu'on a un partenariat avec la Fédération française de savate et boxe française qui nous a fait confiance et a organisé via la Fondation de France au début un budget expérimental d'activité physique pour faire de la savate dans le service. Désormais, ça fait 6 ans que ça tourne et ça tourne bien. Les patients y prennent à la fois du plaisir, de la conscience corporelle, un peu d'estime de soi parce que c'est aussi intéressant de se confronter finalement dans des pseudo-duels, hein, parce qu'on ne se touche pas dans ces pratiques-là ou très peu, en tout cas c'est très encadré, mais ne serait-ce que de se confronter et de faire semblant de donner des coups dans une cible en mousse, c'est quelque chose qui est particulièrement mobilisateur pour les patients et intéressant.
Oui, c'est important, c'est toute cette dimension du rapport au corps. Vous, Marie Galmich, vous développez une plateforme en ligne d'autodiagnostic des TCA, je crois qu'il s'appelle Nutractis, avec Pierre Deschelottes. Avec lequel vous travaillez, c'est ça?
Oui, alors c'est de l'autodépistage. On parle plus d'autodépistage. Effectivement, nous venons de monter au CHU de Rouen la plateforme Nutractis, effectivement, qui permet un autodépistage des TCA et de l'obésité. Donc, c'est basé sur des questionnaires standardisés et validés de la littérature, donc le questionnaire SCOF, et auquel est associé l'algorithme Expali. Et Expali, en fait, va permettre, en cas de TCA, de donner une orientation diagnostic, donc pas un diagnostic précis, mais vraiment de donner un diagnostic selon les 3 catégories larges de TCA, donc plutôt restrictive, plutôt boulimique ou plutôt compulsive. Et en fait, à la suite de ce dépistage, le participant, donc en fonction de sa situation clinique, soit rentré dans un parcours d'autoprévention, donc s'il n'a pas de TCA ni d'obésité, et en cas de TCA probable et ou d'obésité, va rentrer dans un parcours plutôt d'accompagnement, donc qui est composé d'auto-évaluations diverses. Donc on a plus de 20 auto-évaluations proposées sur la plateforme. Donc effectivement, c'est des auto-évaluations qui sont proposées qui sont en lien avec les TCA, bien sûr, donc connues dans la littérature scientifique. Donc on va être sur tout ce qui est perception de l'image corporelle, on en parlait, mais aussi tout ce qui est addiction, alcool, tabac, cannabis, mais aussi cyberaddiction. On a aussi les aspects plus psychologiques. Donc on a le perfectionnisme qui est bien connu en lien avec les TCA plutôt restrictifs. On va avoir l'anxiété, la dépression, tout ce qui est aussi estime de soi, on en parlait également. Et en fait, en cas de risque, face aux facteurs étudiés, le participant aura alors accès à un programme d'intervention en ligne qui est composé de différentes explications associées à des petits exercices. Et en fait, tout ce qui est proposé sur ces programmes d'intervention sont bien sûr basés sur la littérature scientifique et essentiellement sur tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale dont on parlait juste avant et dont l'efficacité est quand même de plus en plus prouvée et reconnue pour la prise en charge de ces facteurs. Voilà.
Ok. Et vous parliez des comorbidités. Aujourd'hui, quelles sont les comorbidités les plus associées au TCA?
Justement, il y a énormément, on en parlait, donc d'anxiété, dépression. On a aussi de plus en plus de publications qui mettent des liens avec les addictions, que ce soit les addictions comportementales, donc à alcool, tabac, cannabis, à la substance, pardon, donc alcool, tabac, cannabis, ou comportementales. Donc là, on va plus être sur tout ce qui est addiction aux écrans. Et donc, je pense que vous en parlerez après, mais notamment le lien avec les réseaux sociaux. On a de plus en plus de publications qui mettent en évidence que l'abus de réseaux sociaux et de certains comptes en particulier peuvent favoriser l'apparition de TCA et leur maintien. Et on a aussi tout ce qui est addiction aux jeux vidéo ou encore au téléphone de manière générale.
Bruno Rocher, peut-être sur ce rapport aux réseaux sociaux et aux écrans pourrait jouer un...
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'effectivement, quand on regarde les pratiques sur les années précédentes, on voit bien que les réseaux sociaux ont pris une dimension extrêmement importante parce que c'est ce que racontent les patients en entretien. C'est-à-dire que nous, on fait toujours, dans un premier entretien d'évaluation psychiatrique et donc addictologique, puisqu'on est addictologue de formation dans le service et de nature, on fait ce que vient de dire Marie. C'est-à-dire qu'on screen ce qui se passe d'un point de vue alimentaire, mais bien évidemment, ce qui va se passer du côté de l'alcool, du tabac, du cannabis, des addictions comportementales. Et avant avant, quand on parlait de téléphone et on parlait d'ordinateur, globalement, il n'y avait pas de warning qui s'allumait, il n'y avait pas beaucoup de discours qui étaient fournis. Et désormais, on voit bien qu'il y a une espèce d'hésitation. Les patients ne le livrent pas systématiquement comme ça parce qu'on pose la question. Mais si on pose un questionnement un petit peu plus précis ou de finalement nous dire quelles comptes elles ont et qu'est-ce qu'ils sont regardés ou qu'est-ce qui est regardé, à quelle heure c'est commencé d'être regardé le matin, etc., on se rend bien compte qu'il y a un certain envahissement qui est proposé par des plateformes dont Instagram, pour le coup, là, on peut leur faire une mauvaise pub, mais qui vont être du coup des utilisations qui vont rentrer en écho du coup en conjugaison avec les préoccupations restrictives, les préoccupations alimentaires et corporelles des patients, et font finalement un très mauvais buzz. Après, le plus souvent d'ailleurs, pour être très honnête, on se rend compte qu'à la consultation, quand on parle de ça avec les patients, il y en a une très bonne partie qui s'est rendu compte à quel point ça intoxiquait leurs pensées et que ça venait poser souci dans le quotidien avec quelque chose qui venait faire trop de bruit, trop de préoccupations autour de ces sujets-là. Et beaucoup nous annoncent, et je pense qu'avec une certaine réalité, qu'elles ont fait une croix sur tel ou tel réseau social, qu'elles ont fait une vague de désabonnement de tels comptes qui effectivement sont plus problématiques à certains moments. Et d'une certaine manière, on peut d'ailleurs suivre presque l'évolution et la clinique des patients au type de compte auquel elles s'abonnent et auquel elles s'adonnent et dans lesquels elles ont intérêt à rentrer, à vérifier, à commenter ou des choses comme ça.
Très bien. Et aujourd'hui, vous, dans votre service, quels sont les taux de rémission qui sont observés pour les patients et patientes? Peut-être d'abord sur l'anorexie et puis sur les autres TCA.
Alors, j'ai pas de chiffres précis. En même temps, ils sont présents dans le service parce qu'on a établi depuis plus de 10 ans, désormais, ça va faire 12 ans maintenant, une cohorte d'évaluation longitudinale des patients à l'IFAC, qui est l'Institut fédératif des addictions comportementales, qui est la partie de recherche attenante au service et qui donne une évaluation de ces situations-là. Et les chiffres, j'allais dire, sont présents virtuellement dans ces recueils de données. Il faut brancher globalement un interne ou un chercheur sur ces données-là pour avoir des rémissions. Après, d'un point de vue clinique, donc ce qui est, moi m'occupe plus, on a des taux de rémission en termes de nette amélioration de la situation qui sont, je pense, plutôt très bons. On doit être à 60-70%, à condition de se donner le temps nécessaire à l'amélioration de la situation. Et moi, je commence à avoir un peu d'ancienneté dans le service, et j'ai des patients que je connais depuis 10 ans, et ce n'est qu'au bout de 10 ans qu'ils disent, bah, effectivement, on arrive à quelque chose qui est satisfaisant. Faisant, ou autrement dans une pathologie chronique dont il va falloir s'occuper de manière chronique avec une gestion de la situation sur cette modalité-là et qui réacquiert une capacité à vivre dans de bonnes conditions correctes, mais avec une pathologie qui se maintient.
Oui, il faut penser la chose sur le temps long. Et vous, Marie, au CHU de Rouen, comment sont les rémissions des patients? Peut-être plus sur l'hyperphagie boulimique?
Alors, j'ai pas de chiffres précis non plus à vous donner, mais effectivement, quoi qu'il arrive, c'est des prises en charge qui sont longues. Le fait est qu'on ait monté la plateforme NutriActis, c'est aussi pour répondre à un problème qu'on n'a pas forcément mentionné, c'est qu'effectivement, on a des gros problèmes dans les prises en charge, puisque la prévalence est en constante augmentation, mais malheureusement, les structures de soins ne le sont pas forcément, et on constate énormément de déserts médicaux dans la prise en charge des TCA et de l'obésité. Le docteur Rocher précisait les centres de niveau 3. Nous, par exemple, sur la région normande, on a seulement un centre, justement à Rouen, de niveau 3 pour la prise en charge des TCA et de l'obésité. Et ça pose un réel problème, puisque c'est des patients qui vont pas forcément avoir les structures et les professionnels de santé à proximité pour cette prise en charge. Et on parlait également de la méfiance et de la crainte de certains patients d'être confronté au regard du professionnel de santé, d'où l'intérêt aussi d'avoir cette plateforme numérique qui est vraiment en accompagnement du soin présentiel. Ça ne se veut pas remplacer la prise en charge présentielle, mais c'est d'accompagner le patient vers une prise en charge présentielle et vers des structures réellement adaptées à cette prise en charge, une prise en charge globale et justement qui est sur du long terme.
Donc la survenue des TCA est liée à des causes, à des multiples causes possibles. L'environnement social, il n'est pas pour rien. Il y a une incitation à la minceur via les médias, la mode ou encore les proches, qui peut engendrer une certaine pression qui déclenche chez certains et certaines des TCA. Et cette pression s'exerce aussi sur les réseaux sociaux. C'est ce dont tu vas nous parler dans ta chronique, Lila.
Comme beaucoup d'enfants des années 2000, j'ai eu un accès à Internet très jeune. Ça a eu ses bons côtés, comme me changer en la personne très cultivée que je suis aujourd'hui, voir les traumas d'Internet de Feldup pour référence, mais aussi m'exposer à des trucs pas ouf. Voir les traumas d'Internet de Feldup pour référence. L'une de ces choses, ça a été le ED Twitter, le Eating Disorder Twitter. On ignore la date précise de l'apparition de cette communauté, mais d'après certains articles et la recherche Google que j'ai pu faire, ED Twitter a commencé à faire parler d'elle vers 2014-2015. Le concept de cette communauté est très simple, réunir des gens, souvent très jeunes, atteints de troubles du comportement alimentaire, sous un hashtag bien spécifique pour que ce soit facile à retrouver. A priori, ça semble plutôt positif. Sauf que non. J'ai passé de nombreuses heures à investiguer et à rechercher ces contenus sur Internet. Les membres de ED Twitter ne sont pas là pour se soutenir, mais pour s'enfoncer dans leurs troubles. Peut-être êtes-vous familier avec le hashtag ProAna sur Instagram, littéralement pro-anorexie. Eh bien, c'est le même concept. Les membres de ED Twitter sont pro-TCA, s'encouragent mutuellement à ne pas manger, se faire vomir et manger la nourriture avec le moins d'apport calorique possible. Pour se forcer à mincir, les méthodes ne manquent pas. On trouve aussi le body checking, à savoir poster des photos de son corps pour vérifier si les autres approuvent le résultat. Inutile de préciser qu'il y a énormément de harcèlement grossophobe dans cette communauté. Voici quelques contenus que j'ai piochés lors de ma petite recherche sur Eating Disorder Twitter. La phrase qui revient très souvent, qui est apparemment une situation très connue, « Aucun repas ne te fera sentir aussi bien que le fait d'être mince ». Plusieurs threads de membres postant des photos de parfaits inconnus qu'ils jugent trop gros ou pas assez attractifs afin de les insulter et de se comparer à eux, avec des phrases du style « C'est trop la honte d'avoir du gras qui dépasse »,« Comment est-ce que tu peux être heureuse comme ça ?»,« Ce n'est pas la peine de te croire jolie si tu es grosse ». Et encore, j'ai choisi les plus sympas. Des threads comme « Comment perdre 5 kilos en 10 jours ?» avec des conseils comme « Pour le petit-déj, mange un œuf dur et la moitié d'un raisin ». Et pour le dîner du soir, mange un yaourt mélangé à des noix. Des jeunes filles de 13, 14, 15, 16 ans, tweetant des choses comme « Encore 30 kilos à perdre pour être proche de la perfection, donnez-moi de la force ». Autant de contenu extrêmement dur à lire, dans lequel je me suis plongée avec intérêt. D'abord par curiosité morbide, quand j'avais 13 ans, ensuite par dégoût, quand j'en ai eu 20, et enfin par envie de comprendre, quand j'en ai eu 23. La majorité des membres de Eating Disorder Twitter ont entre 14 et 21 ans, tous extrêmement fragiles psychologiquement. Est-ce que ça excuse le harcèlement, les propos grossophobes et parfois même racistes ? Absolument pas. Seulement, il faut bien mettre en contexte Eating Disorder Twitter est par nature une communauté extrêmement toxique. Quelqu'un qui va mal de nature ne peut littéralement qu'empirer à son contact. Mon conseil à ceux qui ne connaissent pas cette communauté, évitez comme la peste les hashtags ED Twitter et ProAna. Faites-moi confiance, c'est un intérêt de lapin dans lequel vous ne voulez pas tomber. Pour ceux qui connaissent, j'aimerais simplement communiquer quelques contacts utiles. Anorexie Boulimie West, à l'adresse mail aab.west@orange.fr. Le réseau de psychologues du CHU de Nantes, qui sont très habilités à vous aider. Ainsi que le compte Instagram planetpsy.tca. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul.
Bienvenue au Labo des Savoirs. Attention, recherche en cours.
Nous venons d'écouter Herbalistech avec son titre Spiralia et vous êtes toujours à l'écoute du Labo des Savoirs et nous allons entamer la dernière partie de notre émission sur les troubles des conduites alimentaires, toujours avec Bruno Rocher et Marie Galmiche. Pour cette dernière partie, nous allons maintenant un peu parler de ce qui peut être à l'origine des TCA, aussi divers soient-ils. Les causes pouvant déclencher un TCA sont donc multifactorielles, mais a-t-on à ce jour pu identifier certains facteurs susceptibles de susciter l'apparition d'un trouble, Marie Galmiche?
Effectivement, il y a quelques déjà prédispositions, que ce soit psychologique, biologique ou également environnemental. On parlait de l'internalisation de la minceur, par exemple. Mais également, il y aurait quelques causes biologiques. Donc, il pourrait y avoir notamment des infections, de l'anxiété, qui pourraient induire une perturbation du microbiote intestinal. On parle de dysbiose du microbiote. Effectivement, il y a pas mal d'études qui mettent en évidence une dysbiose du microbiote intestinal au cours des TCA. Mmh. Et en fait, cette perturbation du microbiote peut induire différentes conséquences, et notamment une perturbation du système endocrinien. Donc une perturbation en fait des hormones qui vont réguler la prise alimentaire. Donc on parle des hormones plutôt anorexigènes, qui vont plutôt induire une diminution de la faim, plutôt une satiété. Ouais. Voilà, exactement. Et au contraire, on va avoir les hormones qui vont appeler cette orexigène, donc qui vont déclencher la faim. Et en fait, on constate, il y a quelque chose qui est bien établi, c'est que au cours de l'anorexie mentale, on constate une ghrélinorésistance. Donc en fait, on a une augmentation des taux de ghréline.
Mais donc la ghréline, c'est quoi?
Oui, la ghréline, pardon, elle fait partie des hormones orexigènes.
D'accord.
Donc qui va déclencher la faim. Voilà. Et c'est pour ça, vu que le taux est augmenté et que finalement le comportement alimentaire est dans la restriction, on parle de ghrélinorésistance. Et au contraire, au cours de l'obésité et au cours de l'hyperphagie boulimique, on constate une leptinorésistance. Et ces dérégulations expliquent en partie la modification du comportement alimentaire au cours de ces pathologies. Il y a également d'autres hormones de la prise alimentaire qui sont impactées de manière un peu moindre, c'est moins marqué dans les cohortes scientifiques, mais il y a également tout le panel d'hormones de la prise alimentaire anorexigène, mais également orexigène, qui serait impacté au cours de ces pathologies-là, et ce qui expliquerait justement ce dérèglement.
Et vous disiez au début que vous observiez une dysbiose intestinale, donc c'est un déséquilibre de la population bactérienne dans l'intestin pour les TCA. Où en sont les compréhensions de ces phénomènes, et notamment au niveau de l'axe intestin-cerveau lié au TCA?
Oui, effectivement, toutes les cohortes mettent en évidence une dysbiose du microbiote intestinal au cours des TCA et au cours de l'obésité également. Donc on a encore pas mal de recherches qui doivent se pencher sur exactement quelles sont les modifications du microbiote. Donc il y a en général beaucoup d'études qui mettent en évidence que peu importe le TCA, il y aurait une diminution de la richesse bactérienne du microbiote intestinal. Et donc, en fait, cette modification du microbiote va avoir plusieurs impacts, et notamment la modification de la production des acides gras à chaîne courte. Les acides gras à chaîne courte, en fait, ils vont être produits suite à la fermentation des fibres par les bactéries du microbiote intestinal. Et en fait, ces acides gras à chaîne courte sont des molécules qui sont bénéfiques, que l'on dit bénéfiques pour la santé, notamment parce qu'elles vont avoir un effet anti-inflammatoire. Et les dernières recherches mettent en évidence que cette modification de la population des acides gras à chaîne courte va avoir un impact sur la libération de certaines hormones dont on parlait, donc associées à la prise alimentaire, et notamment le PYY et le GLB1, qui sont tous deux des hormones anorexigènes. Et en fait, toute cette modification du microbiote va également aider du système endocrinien, va également avoir des répercussions au niveau central, puisque les mécanismes de prise alimentaire sont au niveau périphérique, donc tout ce qui est intestinal, mais également au niveau central, donc au niveau du cerveau. Et en fait, les publications mettent en évidence que toutes ces modifications pourraient impacter le système nerveux central, et notamment le système dopaminergique, le système sérotoninergique et le système endocannabinoïde. Puisqu'effectivement, on constate aussi, ce qui confirme aussi ces hypothèses, c'est qu'on constate que ce soit au niveau de l'hyperphagie, de la boulimie, mais aussi de l'anorexie, des perturbations, notamment au niveau du système dopaminergique, de la libération de la dopamine.
Peut-être pour détailler un petit peu pour nos éditeurs et auditrices, qu'est-ce que c'est le système dopaminergique ? Est-ce que c'est lié au système sérotoninergique ? Est-ce que c'est lié au système de la récompense ?
Oui, effectivement, oui, c'est tout à fait ça. Bon, c'est ce que effectivement, la perturbation du système de récompense, elle est constatée dans tous les TCA, tout type de TCA, puisqu'effectivement, ce système serait perturbé. Soit via les hypothèses sont via la restriction alimentaire, hein, ce qui induirait des perturbations de ce système, mais également la consommation accrue d'aliments palatables, donc d'aliments qui sont satisfaisants pour le palais. Et en fait, une consommation d'une alimentation très palatable va en fait augmenter la production de dopamine et à terme pourrait induire une perturbation de ce système dopaminergique, donc qui est réellement lié au système de récompense.
Vous parlez d'aliments palatables, donc est-ce que c'est les aliments qui sont issus des produits ultra transformés ?
Effectivement, ça en fait totalement partie, puisque c'est des aliments qui sont très très gras, très très sucrés, très salés, et ce qui va induire un plaisir gustatif et induisant également donc cette augmentation de la dopamine. Il y a notamment des études qui ont mis en évidence que lorsque l'on regarde l'activité cérébrale, lorsqu'on monte des images d'aliments plus ou moins palatables, les aliments palatables vont induire une réponse neuronale différente que comparée à des aliments moins palatables.
Vous avez travaillé pas mal sur l'hyperphagie boulimique et notamment dans le cadre de l'obésité ou non. Et vous distinguez ce qui peut être l'alimentation émotionnelle et l'addiction à l'alimentation. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur ces distinctions ?
Bah, effectivement, en fait, le problème des études scientifiques jusqu'à maintenant, voilà, de plus en plus justement, il y a la distinction qui est faite entre l'hyperphagie boulimique et l'obésité, puisque toutes les obèses n'ont pas une hyperphagie boulimique. Et en fait, le problème, c'est que les études jusqu'à là ne mettaient pas cette différence en évidence dans les publications scientifiques. On parlait d'une population souffrant d'obésité, et on ne faisait pas la distinction. Est-ce que les patients de cette étude présentaient ou non une hyperphagie boulimique, et présentaient ou non une addiction à l'alimentation, et idem pour l'alimentation émotionnelle. Sauf que que ce soit l'hyperphagie boulimique ou l'addiction à l'alimentation ou l'alimentation émotionnelle, n'ont pas forcément les mêmes mécanismes. Et donc forcément, ça a parfois brouillé quelques pistes. Et on comprend mieux des fois pourquoi il existe des contradictions entre certaines études cliniques, et notamment au niveau du système dopaminergique, où parfois on observe plutôt une hyperactivité, parfois plutôt une hypoactivité. Mais c'est également parce que on n'a pas vraiment bien phénotypé la population d'études au cours de ces pathologies-là. Donc là, il y a de plus en plus d'études qui vraiment s'intéressent à ce phénotypage, mais effectivement, ça a pu être problématique.
D'accord. Donc les recherches sont toujours en cours, mais est-ce que pour autant il y a des pistes médicamenteuses qui sont en bonne voie, notamment je pense à des stimulations hormonales comme on a pu voir récemment pour l'obésité, qui a un médicament qui cible les récepteurs GLP-1, donc qui sont des hormones anorexigènes, pardon.
Oui, effectivement, là, il y a le grand buzz, entre guillemets, sur le sémaglutide, oui, qui effectivement est un agoniste GLP-1, qui initialement était quand même un médicament qui était destiné aux personnes souffrant de diabète, mais qui maintenant s'est élargi, la recommandation devrait prochainement s'élargir pour les patients également souffrant d'obésité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que pour le moment, les préconisations de ce médicament sont vraiment pour un certain type de patients souffrant d'obésité. Ce sont des obésités sévères ou alors des obésités peut-être un peu moins sévères, mais avec certaines complications et notamment la présence de diabète. Et sinon, au niveau des différents... différentes perspectives de traitement. Bien sûr, on espère qu'un sur l'étude du microbiote intestinal aboutira au développement de prébiotiques ou de probiotiques qui permettront donc justement de moduler la flore intestinale et d'aider à la rémission des patients souffrant de ces pathologies-là. Bien qu'on suppose qu'il faudra toujours avoir un complément avec toutes les stratégies qu'on a évoquées avant, oui, l'activité physique adaptée, tout ce qui est thérapie cognitivo-comportementale, etc. Et tout le médecin actuellement, tout le travail des médecins qui est fait actuellement avec cette prise en charge pluridisciplinaire.
M. Prude Rocher, vous, est-ce que dans votre service, vous utilisez des pistes de médicaments?
Pas directement sur la question des troubles, des conduites alimentaires, en tout cas pas dans l'anorexie. Dans la boulimie, il y a quelques essais qui se font avec différentes molécules qui sont anti-impulsives et ou addictolytiques et qui sont utilisées plus fréquemment et avec des preuves établies d'efficacité dans la gestion de l'alcool, par exemple. Et là, il y a des tests qui sont faits actuellement autour des gestions de crise de boulimie avec ce genre de médicaments addictolytiques, mais qui sont pas encore dans la pratique courante. Les traitements qui peuvent être utilisés sont des traitements des comorbidités, du coup, qui sont anxieuses ou dépressives, qui sont très fréquentes quand même du côté des troubles des conduites alimentaires ou même des préoccupations et des envahissements psychiques de rumination alimentaire et qui, du coup, peuvent être traités par la pharmacopée habituelle, notamment les antidépresseurs.
D'accord. Vous écrivez, Bruno Rocher, dans un article en 2022 dans la revue Information Psychiatrique, coécrit avec Maëlle Lebras, que la France connaît un retard structural d'organisation de services spécialisés dans les TCA par rapport aux autres pays occidentaux. Est-ce que les besoins en termes de ressources humaines et financières ont été entendus face aux demandes de prise en charge, notamment après la pandémie de Covid-19?
Alors c'est la suite de ce que disait Marie tout à l'heure quand elle disait qu'il y avait qu'un centre de niveau 3 sur Rouen, sur les Pays de la Loire il y en a qu'un de niveau 3, c'est sur Nantes effectivement, mais avec d'autres centres qui sont labellisés, puis avec l'idée d'organiser finalement le territoire de santé avec des centres de niveau 1, niveau 2, niveau 3, avec des recours qui sont possibles. Mais effectivement, on est largement en dessous des niveaux nécessaires pour accompagner dans de bonnes conditions l'ensemble des patients qui sont souvent soit sur Nantes où il y a des centres possibles avec des délais importants, soit dans d'autres secteurs, dans des déserts spécifiques, enfin de soins spécifiques autour des troubles alimentaires qui sont importants. Et dans les pays du Nord, notamment, on n'a pas ce genre de délai-là. Donc il y a des choses qui ont été entendues. Les financements qui ont concouru à l'organisation des niveaux 3 sont des premières descentes, on va dire, nationales de financement permettant d'essayer de combler ce retard structurel, mais qui n'est pas encore suffisant.
Et Marie Galmiche, peut-être vous, sur les financements des recherches sur la compréhension des mécanismes des TCA, est-ce qu'ils sont assez suffisants?
Alors c'est toujours compliqué d'avoir des financements de recherche. Ouais. C'est pas forcément effectivement la thématique qui est le plus mise en avant dans les appels à projets ou les divers financements. Mais effectivement, il y a toujours moyen de faire mieux. Au niveau recherche, c'est toujours un peu le nerf de la guerre de trouver les financements.
C'est la fin de cette émission consacrée aux troubles des conduites alimentaires. Merci à nos invités d'avoir répondu à notre invitation. Bruno Rocher du service Barbara au CHU de Nantes et président du réseau Abella. Et Marie Galmiche, ingénieure de recherche au CHU de Rouen. Merci à Dounia Saez pour la réalisation de cette émission et à Lila pour sa chronique. Une émission préparée et animée par Sacha Citerne que vous pouvez écouter sur vos applications de podcast. Retrouvez-nous sur labodessavoir.fr ou nos réseaux sociaux. Et on vous dit à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.
101.5 FM en DAB+ sur Angers. Radio G. Un point, c'est tout.